nous avons, en l'espace de 2 ans, connu 3 coups d'État en Afrique de l'Ouest et au Sahel. On a connu un coup d'État au Mali, un coup d'État en Guinée et un coup d'État au Burkina Faso. Nous venons d'un sommet de la CEDEAO qui a eu lieu à Accra le 3 juillet. Et un dénouement heureux semble se dégager ou s'est dégagé pour ce qui est du Mali et du Burkina Faso. À savoir que nous nous sommes entendus par rapport au sujet des deux pays sur une durée de transition de 24 mois pour le Mali à partir de mars 2022 et de 24 mois pour le Burkina Faso à partir du 1er juillet 2022. Mais au-delà de ces délais, ce qui est important, c'est que les sanctions ont été levées. Dans un pays comme le Mali, il y avait des sanctions économiques, commerciales et financières. Les frontières étaient fermées et tout ça, maintenant, il y a une solution. Les frontières sont ouvertes, les transactions commerciales vont commencer. Et je reviens d'Accra avec une bonne nouvelle pour les deux pays. Maintenant, pour ce qui est de la Guinée, c'est vrai que c'est encore complexe parce qu'on a passé pratiquement 7-8 mois de dialogue de sourds entre la CEDEAO et la Guinée. Maintenant, un nouveau médiateur a été nommé. On lui a donné 1 mois pour qu'il parte faire le point avec les autorités de la transition guinéenne et venir en rendre compte à la CEDEAO. Donc, je mets l'espoir, tout simplement, qu'il puisse aboutir à un consensus qui pourra éventuellement être validé par la CEDEAO.
Vous allez faire un briefing demain devant le Conseil de sécurité. Quels sont les autres aspects de la situation dans la région que vous allez mettre en avant devant le Conseil?
Je dirais que comme un point positif, il y a cette évolution d'avoir trouvé des solutions aux crises qui opposent la CEDEAO aux pays qui ont fait le coup d'État. Mais il y a aussi les défis qui sont souvent liés aux élections et à la démocratie de façon générale. Là, je vais leur dire que nous avons eu des élections qui se sont bien déroulées. Il y a eu le cas de la Gambie, il y a eu le cas des élections locales au niveau du Sénégal. Mais on a aussi de l'espoir que des élections importantes qui vont avoir lieu en 2023, à savoir au Nigeria, en Sierra Leone, au Liberia. On a de l'espoir que ça puisse se dérouler dans de bonnes conditions parce que, surtout par rapport au Nigeria, qui est le grand pays de la sous-région, où il y aura des élections des gouverneurs, des sénateurs, des présidents de la République, un enjeu important. Je viens de faire une mission là-bas et je suis revenu avec un constat, à savoir les défis sont nombreux, notamment les défis sécuritaires, mais il y a plein d'espoir. Plein d'espoir parce que j'ai trouvé qu'au niveau du Nigeria, toute la classe politique, société civile compris, ont confiance à l'organe qui fait les élections, à savoir l'Independent National Electoral Commission, INEC. Ça, c'est un peu rare en Afrique. On trouve que toute la classe politique, y compris la société civile, ait confiance à l'organe qui fait les élections. Même pas seulement qu'ils ont confiance, mais tous également ont confiance à leur système judiciaire. Or, en Afrique, toutes les crises post-électorales, c'est l'organe qui fait les élections qui les crée. Et quand on s'adresse à la Cour ou aux institutions judiciaires, souvent, on donne raison plutôt à ceux qui sont au pouvoir. Donc, c'est un espoir quand même qu'un pays, grand pays comme le Nigeria puisse aller vers ces élections avec autant de confiance. C'est quelque chose d'extrêmement important. Maintenant, il y a aussi le dialogue, parce qu'une élection bien réussie, c'est une élection bien préparée en amont. Et il y a des dialogues politiques qui ont été instaurés dans un pays comme la Côte d'Ivoire, un pays comme le Bénin, qui pour moi sont porteurs d'espoir également, parce que pour quelqu'un qui a vu la crise post-électorale de la Côte d'Ivoire en 2020-2021, aujourd'hui le dialogue s'est instauré entre le président Gbagbo, le président Ouattara, le président Bédié, et c'est vraiment source d'espoir pour que ce grand pays de l'Afrique de l'Ouest puisse se stabiliser. Donc, en gros, il y a les défis sécuritaires qui persistent, qui sont là. Il y a les défis liés au coup d'État où nous sommes en train de trouver des solutions. Il y a les défis de la gouvernance démocratique où il y a des élections qui se déroulent bien, d'autres avec beaucoup de difficultés. Il y a les changements climatiques. Il y a aussi les conséquences de la crise ukrainienne qui se font sentir au niveau des pays du Sahel. Parce que beaucoup dépendent des engrais venant de l'Ukraine. En plus, il n'y a pas une bonne pluviométrie. Donc, je vais leur dire, il y a une crise humanitaire qui est latente parce que beaucoup de populations sont déplacées. Mais il va s'y ajouter une crise alimentaire qui se déride parce qu'il y avait une pluviométrie défaillante. Et même pour ceux qui veulent cultiver, ils risquent d'avoir un problème d'engrais, ce qui fait qu'il faut que les membres du Conseil de sécurité soient attentifs à ce qui se passe dans cet espace sahélo-saharien.
S'agissant de la stratégie intégrée des Nations Unies au Sahel, où en est-on ?
La stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel a été initiée dès le départ à cause de la crise au Mali en 2012-13. Depuis lors, elle a fait son chemin. Maintenant, depuis l'année dernière, on a nommé un collègue qui s'occupe de l'aspect développement, à savoir Mar Dien, qui a commencé à faire du bon travail. Nous travaillons ensemble. On a pu identifier un certain nombre de points qu'on a pu faire bouger, à savoir des projets au profit des pays pour lesquels la stratégie a été initiée. Donc on a identifié, à mon avis, presque 12 projets qui sont déjà sur le pipe, qui répondent aux défis sahéliens et qui sont pilotés soit par une agence des Nations Unies, soit par un fonds, soit par un programme avec l'appui de UNOAS. Donc globalement, ce sont les agences, fonds et programmes des Nations Unies qui sont des pays concernés qui pilotent ces projets. Et nous venons pour la première fois de délocaliser les réunions du comité de pilotage où on a eu à tenir dernièrement une des réunions du comité de pilotage en N'Djamena, en dehors de Dakar. Un, pour essayer de faire comprendre aux populations de ces 10 pays concernés par la stratégie qu'il y a une stratégie qui existe et en même temps pousser les contre-teams, nos agences, nos fonds et nos programmes pour leur dire que c'est d'abord une stratégie des Nations Unies, qu'il faudrait s'en approprier. Et il est extrêmement important d'initier des projets, ce qui a commencé. Et il y a un autre élément, c'est comment coordonner cette stratégie avec une autre stratégie initiée par l'Union africaine, pilotée par la Commission du bassin du lac Tchad, à savoir la stratégie de redressement et stabilisation au niveau du bassin du lac Tchad. Donc les deux maintenant cheminent un peu ensemble, appuyés par l'ensemble des agences, fonds et programmes des Nations Unies.